Écho de la Grande Guerre en pays mélois. Les mutilés de la Grande Guerre. Chronique écrite par Catherine Leclerc, professeure du lycée Desfontaines de Mel, détachée au service éducatif du pays d'art et d'histoire, et mise en voix par Bernard Hugoni de Sainte-Soline, Boris Leclerc du lycée Paul Guérin, Mathieu Bourgarel, Louise Giringelli, Arthur Favard, Adèle Tribault, élève de première L au lycée Desfontaines de Mel.
La Première Guerre mondiale est encore appelée, un siècle après le déclenchement du conflit, la Grande Guerre. 70 millions d'hommes mobilisés, 51 mois de combat et surtout, une population définitivement traumatisée par l'ampleur de sa brutalité. Toutes armées confondues, on dénombre plus de 18 millions de morts, militaires et civils, et plus de 21 millions de blessés. La Triple Entente est certes déclarée victorieuse le 11 novembre 1918, mais à quel prix ? Notre pays commence à compter ses victimes. 1,6 million de morts, dont certains disparus sans sépulture, et plus de 4 millions de blessés. C'est d'eux dont nous allons parler aujourd'hui, les mutilés, les invalides, les grands blessés de la Grande Guerre. Lorsque le 14 juillet 1919 a lieu sur les Champs-Élysées la grande fête de la victoire, ce sont eux, les blessés de la Grande Guerre, qui défilent en tête de cortège. Amputés, aveugles, gueules cassées, plus de 1000 mutilés qui, en béquilles, qui... en brancard, qui, soutenu par un autre soldat, tous défilent. Ils rappellent combien la guerre, pour tourner en dérision les mots d'Apollinaire, lui-même trépané et décédé en 1918. Ah Dieu, que la guerre est loin d'être jolie. Nous irons à la rencontre de Florentin Rivaud, de Sauzet, rescapé de la Grande Guerre, mais gueule cassée. De Julien Moreau, de Saint-Romand, rescapé, mais gazé. Et puis, nous découvrirons l'ingéniosité qu'ont déployée certains artisans pour concevoir le Vélociman, véhicule pour invalides, exposé au musée Monet et Goyon de Mel. Écoutons d'abord Julien, né à Négressauve en 1897 et brancardier sur le front.
Quoique peu sensible, quand j'ai déposé mon premier blessé au poste de secours, je fus pris de nausées et obligé de sortir.
On imagine sans peine l'ampleur de l'horreur que Julien découvre à 19 ans. Alors que 1% seulement des blessures sont causées par les armes blanches, plus de 80% le sont par l'artillerie. Une mitrailleuse tire 600 balles minute, pour une portée de 4 km. Le 75 tire 8 obus minute, pour une portée de 7 km. 500 000 obus sont fabriqués chaque jour en 1918 en France et en Angleterre. On comprend sans problème la gravité des blessures infligées à ceux qui survivent pourtant au terrible combat. Florentin Rivaud est né en mars 1882. Paysan, il vit à la Combe de Sauzet, est marié. Blessé le 3 novembre 1915, il est réformé le 21 mars 1916. Écoutons, à son sujet, le médecin du comité de secours aux blessés, des maxillaires et de la face.
Paris, le 15 septembre 1915. Atteint d'une fracture au maxillaire inférieur, l'orifice buccal est considérablement rentré, empêchant l'ouverture normale de la bouche. Arrêt opéré, c'est-à-dire arracher toutes ses dents pour poser deux appareils de prothèse.
Un autre médecin en 1919 évoque
une gêne à la mastication et des gastralgies intermittentes.
En 1923, un autre encore note ça.
Défiguration, cicatrice, chute de la lèvre inférieure, fermeture de la bouche impossible.
Voilà dans quel état ce simple soldat du 6e régiment d'infanterie, infanterie où étaient souvent placés en première ligne les paysans, rentre en 1916 à Sauzet auprès de sa femme Amélie et de ses enfants. Nous avons sa photo. L'une de ses filles aurait pu dire à son sujet
« J'ai peur de mon papa. Où l'embrasser ? Sa joue est défigurée par les blessures et les prothèses. Et lui, comment peut-il m'embrasser ? Je veux tant embrasser papa avant de dormir. »
Paradoxalement, un de ses amis, Louis Leroux, lui écrit du front pendant l'une de ses longues hospitalisations.
Le 16 janvier 1916. « Mon cher Florentin, j'ai bien reçu votre aimable lettre du 7 et qui me donne des nouvelles de votre santé. » Mais je vois que vous en avez assez d'être brouetté d'un hôpital à l'autre, mais que voulez-vous ? Il faut prendre courage pendant que vous êtes là pour vous faire une bonne mâchoire, car c'est surtout de là que dépend la santé. Et vous êtes encore mieux là que dans les tranchées, car je vous assure que ce n'est pas la boue qui manque pour le moment, et rester toujours dans le même endroit, c'est bien monotone. Je vous souhaite une bonne santé et un prompt retour dans votre foyer auprès de votre chère épouse et de vos chers enfants.
Gueule cassée le 3 novembre 1915, Florentin ne reverra sa famille que fin mars 1916 et son état s'aggravera jusqu'à la fin de sa vie, âgé de plus de 76 ans. Autre blessure inédite aussi jusqu'à l'heure de la Première Guerre mondiale, les gaz. déployé pour la première fois par l'armée allemande le 22 avril 1915 à Ypres, à base de chlore, d'arsenic, de cyanure, d'acide, au gré des avancées technologiques. 35% des munitions françaises et allemandes en 1918 sont des gaz. Ils causeront environ 1 million de morts, sans compter tous ceux qui connaîtront de terribles séquelles longtemps après l'armistice. Ces gaz de combat pouvaient être dispersés sur des périmètres très étendus, au point de toucher les civils dans les villes proches du front, comme c'était le cas à Reims, où s'est trouvé notre nouveau témoin. Julien Moreau, paysan et musicien de Saint-Romand, gazé le 18 octobre 1918. Il sortira de l'hôpital pour sa convalescence le 5 décembre seulement. Terreur et douleur des gaz, guerre technologique, particulièrement traître, écoutons Julien, musicien et brancardier du 65e régiment d'infanterie.
Le soir, étant frais et reposé, je pris la garde devant la table du major avec le téléphone. Les communications de temps à autre nous indiquaient ce qui se passait dans les lignes. Quand, tout à coup, plus rien. Le major m'avait recommandé d'appeler, à minuit, deux hommes pour aller au ravitaillement et, pour m'occuper en l'attendant, je lisais. Vers 10 heures, les yeux me faisaient mal et je n'y voyais pas très bien. Assez surpris pour commencer, je m'en demandais la cause. L'idée me vint de sortir pour me rendre compte de ce qui se passait. C'est alors que je jugeais la situation. Les Boches, pour couvrir leur retraite, bombardaient avec des obus à gaz. Le bruit en était caractéristique. Quel gaz ! De l'hypérite sans doute. Pas d'odeur, pas de couleur, il n'y a pas à s'y méprendre. C'est donc ça que j'avais mal aux yeux. Je réveillais tout le monde et presque aussitôt, des téléphonistes arrivèrent au poste, atteints comme moi. En réparant les lignes coupées par les obus, ils en avaient connu les effets. Il fallait faire vite des fiches d'évacuation. Et j'emmenais 11 gazés, tous masqués et moi aussi, au médecin-chef où la voiture ambulancière les prit. Mais il fallait traverser tout Vouziers sous le bombardement. Enfin, nous arrivâmes au but. Pour trouver l'entrée du poste, je fus obligé de retirer mon masque tant il y avait de fumée. Je n'ai pas pu voir où l'on me conduisait. En plus, j'avais mal à la gorge et ne pouvais plus parler. Je me demandais ce qu'il pouvait en advenir. Nous étions plusieurs dans l'ambulance, consternés et presque inconscients. Nous avons roulé longtemps, puis des infirmiers nous ont descendus. Je n'ai jamais vu où nous étions. Je fus conduit dans une salle de douche. Mes effets furent remportés. Sans doute, ils étaient imprégnés d'hypérite. On me donna une chemise, une veste et un pantalon. Je fus déposé sur un brancard et enveloppé dans une couverture. J'ai passé la nuit comme ça, puis le matin, du moins je l'ai prétendu, un infirmier m'a pris par le bras et m'a fait monter dans un wagon de voyageurs. Je me laissais conduire. Sur place, on me servit un café. Je n'avais rien absorbé depuis 24 heures. Le train s'est arrêté à Malesherbes, dans le département du Loiret. C'était là l'hôpital qui nous attendait. Toujours guidé, j'ai pris place dans un lit qui me parut bon, je vous assure. J'étais épuisé et l'estomac vide. Je n'apercevais rien autour de moi. Je me laissais faire. D'abord, on m'apporta un quart d'huile de ricin. Je compris tout de suite que c'était pour me nettoyer l'intestin des gaz que j'avais absorbés. Puis, on me mit des gouttes dans les yeux. Ça me brûlait fortement. Mais il le fallait. Notre médecin-chef, en m'évacuant, m'avait dit que ma vue reviendrait vite. Et j'avais confiance. J'étais comme un automate. Je me laissais soigner. Une chose me tracassait. J'aurais voulu écrire chez moi, à ma fiancée. Mais impossible, je n'y voyais pas. Au bout d'une semaine, j'ai commencé à distinguer mon camarade de lit. J'allais mieux de ce côté et, fouillant dans mes affaires, j'ai trouvé une carte postale où je griffonnais quelques mots que j'adressais à ma bien-aimée, la première, en lui disant de prévenir mes parents.
Plus loin, dans ses mémoires écrites à l'âge de 79 ans, Julien relatera son dernier rendez-vous avant de quitter l'hôpital avec le médecin-chef. Il expliquera combien le fait de jouer du cornet à piston a compensé ses difficultés à respirer.
J'avais échappé à la tourmente, j'avais été gazé, et je m'en trouvais malgré tout diminué, ayant de ce fait une insuffisance respiratoire. Le médecin-chef me disait bien qu'il me fallait faire travailler mes bronches le plus possible pour guérir de ces brûlures, et j'avais confiance malgré tout. Mais je me suis rendu compte depuis que de jouer d'un instrument avant, ça me donnait de l'air. Ça ne faisait pas disparaître les plaies que j'avais à l'intérieur.
Comme pour Florentin, sa situation s'est aggravée au fil des ans. Gravement brûlé aux yeux, il évite un peu la cécité, mais un seul de ses poumons résiste à l'hypérite. Jusqu'à la fin de sa vie, à l'âge de 82 ans, il ira régulièrement en cure pour tenter de retrouver un peu de souffle dont la guerre l'avait privé. À la fin du conflit, le nombre d'amputés d'une ou deux jambes est tel qu'une petite entreprise de Mâcon, Monet et Goyon, développent un certain nombre d'appareils roulants destinés aux infirmes. Vélociman, automouche et vélo-fauteuil.
Maniable et léger, ils permettent aux invalides de retrouver un peu d'autonomie dans leurs déplacements. L'ingéniosité des concepteurs est grande puisqu'ils conçoivent des appareils capables de gravir des pentes de 20% et que deux amputés des deux jambes, brosés et corps sains, par un temps épouvantable, à la seule force de leurs bras actionnant les pédales du Vélociman, réussiront à parcourir en 8 jours 450 km entre Mâcon et Orléans en avril 1919. D'ailleurs, écoutons le compte-rendu de la course de Rosé et Corsin, paru dans le Petit Parisien, le 7 avril 1919.
Le Vélociman, tricycle actionné par les mains, est un instrument qui permet aux personnes malades ou privées de l'usage de leurs jambes d'occuper tous les emplois exigeant des déplacements rapides, quelle que soit la distance à parcourir. Instrument de travail et de sport, adopté par les services de santé militaire et les Croix-Rouges alliées.
Le marché se développe tant au lendemain de la fin de la Grande Guerre qu'en 1922, 1157 appareils destinés aux invalides seront vendus. Vous pourrez admirer l'ingéniosité de leurs concepteurs et le courage des mutilés lors d'une exposition du Vélociman dès septembre à la Maison du Pays Mélois. Comment peut-on conclure sur un sujet si grave? Et d'ailleurs, peut-on conclure? Qui sont ceux qui, blessés sur le front, sont morts bien après l'armistice? Qui sont ceux qui, traumatisés par l'horreur, n'ont jamais pu retrouver un équilibre psychique? Et toutes ces femmes qui retrouvent un fils, un fiancé, un mari mutilé et traumatisé? Quelle chance avons-nous, chers auditeurs, de faire partie de ces générations qui n'ont pas connu cette guerre qu'Apollinaire évoquait aussi ainsi? Si tu voyais ce pays, ces trous à hommes, partout, partout, on en a la nausée, les boyaux, les trous d'obus, les débris de projectiles et les cimetières. Sûr que Florentin Rivaud, Julien Moreau et leurs camarades auraient pu tenir de tels propos.